Laudetur Jesus Christus.
Cinquième jour de guerre ouverte entre Israël et l'Iran. Les salves de missiles entre les deux pays se poursuivent. La communauté internationale, G7 en tête, appelle à la désescalade. Cibles militaires mais également civiles. Nous irons à Tel Aviv ce matin. Quelle est la capacité de résistance de l'Iran, pays isolé? C'est la question que nous avons posée à notre invité dans notre dossier. À la une de ce journal également, l'aide humanitaire internationale en très forte baisse en raison de la chute des financements. C'est l'alerte lancée hier par les Nations Unies. Nous reviendrons dans ce journal également sur la fragilisation croissante du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Et puis nous irons également en Guinée où la junte a dissous hier la commission électorale indépendante. Une décision, on le verra, qui suscite de très nombreuses critiques dans le pays.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
Bonjour. De nouvelles salves de missiles nocturnes tirées depuis l'Iran vers le territoire israélien. Les alertes ont retenti dans tout le pays ce matin, invitant les habitants à regagner les abris. Dans le même temps, l'État hébreu poursuit également ses bombardements sur l'Iran. Tzahal a annoncé ce matin avoir mené plusieurs frappes de grande envergure contre des cibles militaires iraniennes. Mais Israël ne vise pas seulement des cibles stratégiques. En témoigne la télévision d'État qui a été touchée hier, faisant au moins 3 morts. À Tel Aviv, on fait le point avec Julia Ganancia.
En plus des installations militaires et nucléaires de la République islamique, Israël s'attaque à des sites économiques, des postes de police et des ministères, dans l'espoir de désorganiser le pays. Ce lundi, le siège de la télévision d'État iranienne a été bombardé en direct. La présentatrice, habillée d'un tchador, a dû quitter précipitamment son siège, en cause un puissant bombardement de l'armée israélienne qui a pulvérisé une partie de son studio à Téhéran. Dans la vidéo de la frappe partagée sur les réseaux sociaux, la diffusion audiovisuelle n'est pas interrompue et des Allahu Akbar se font entendre. Dans le courant de l'après-midi, l'armée avait lancé un appel à la population à évacuer la zone du siège de cette institution située dans le nord-est de la capitale iranienne. Ce lundi soir, Benjamin Netanyahou a déclaré dans une interview à ABC que tuer l'ayatollah Ali Khamenei mettrait, je cite, fin au conflit. Outre la lutte contre le programme nucléaire, Israël entend donc également déstabiliser son adversaire sur le plan politique. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
Et l'attaque contre la télévision d'État iranienne est le comble de la lâcheté, montre le désespoir des Israéliens, commente ce matin le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Ashraghi. Depuis le Canada où ils sont réunis, les pays du G7 ont affirmé le droit d'Israël à se défendre, mais appellent également à protéger les civils. L'Iran est la principale source d'instabilité, de terrorisme dans la région, écrivent les dirigeants des pays les plus riches dans un communiqué commun, tout en demandant que la résolution de la crise aboutisse, je cite, à une désescalade plus vaste des hostilités au Moyen-Orient, y compris un cessez-le-feu à Gaza. Les centrifugeuses de l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz, la plus importante d'Iran, pourraient avoir été sévèrement endommagées. C'est ce qu'a expliqué Raphaël Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à la BBC. Les installations électriques permettant le refroidissement ont en effet été détruites. Ces nouvelles tensions extrêmes qui pèsent sur tout le Moyen-Orient n'annulent pas l'espérance dans la région, c'est ce qu'explique le père Francesco Patton, le custode de Terre Sainte. Même si de nombreux chrétiens de la région, explique-t-il, sont tentés par l'exil, sachez qu'en raison des problèmes sécuritaires, les activités de Caritas Jérusalem ont été suspendues. 15 milliards de moins d'aide humanitaire, c'est ce que prévoit le nouveau plan d'aide humanitaire des Nations Unies pour l'année 2025, revu à la forte baisse en raison des coupes financières des pays donateurs. Le nouveau plan à 29 milliards de dollars va engendrer des conséquences concrètes dramatiques alors que les crises dans le monde se multiplient, Gaza, Soudan, Ukraine, mais aussi ces derniers mois, séisme en Birmanie ou affrontement en République démocratique du Congo, Jean-Benoît Harel.
D'abord Olivier, ce nouveau plan oblige l'ONU à hyper prioriser son aide, c'est-à-dire à se concentrer auprès de 114 millions de personnes contre 180 millions à l'origine. Tom Fletcher, le patron de l'organe de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU, l'OCHA, a déploré être maintenant, je cite, « forcé de faire un tri de la survie humaine ». Les urgences humanitaires sont concernées, comme la faim dans le monde qui risque d'exploser, mais aussi les programmes de long terme. Ainsi au Bangladesh, c'est la lutte contre la tuberculose et son éradication qui ont été remises en cause, faute de moyens. En Afrique australe, la lutte contre le sida pourrait sérieusement pâtir de ses coupes. Ensuite, cette réduction budgétaire force à réduire le nombre d'agents. Un exemple avec l'agence de l'ONU pour les réfugiés, le HCR, qui a annoncé la suppression d'environ 3500 postes par manque d'argent. faute des États-Unis et de Donald Trump qui a fermé le robinet de l'USAID en février dernier. Oui, mais pas que. Un grand nombre de pays donateurs ont revu à la baisse leur aide pour se consacrer à d'autres priorités dans des contextes économiques parfois difficiles. En désespoir de cause, l'OCHA appelle à la responsabilité globale et à la solidarité en demandant à chaque pays de donner l'équivalent de 1% de ses dépenses militaires.
Jean-Benoît Harel. Kiev visé par une attaque meurtrière la nuit dernière. Les Russes ont lancé des drones kamikazes et des missiles de croisière sur des immeubles de la capitale ukrainienne. Bilan au moins 14 morts et 40 blessés. La ville d'Odessa sur la mer Noire a, elle, subi des frappes. Combien de citoyens et d'enfants doivent encore mourir, s'indigne ce matin le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, qui regrette l'absence de réaction adéquate du monde civilisé. Ce sont ses mots. La Russie qui poursuit donc sans relâche sa guerre d'agression en Ukraine, alors qu'a lieu ce mardi une nouvelle visite en Corée du Nord de Sergueï Shoigu, le secrétaire du Conseil de sécurité russe. C'est la deuxième visite en moins de deux semaines. Il doit s'entretenir avec Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen qui a promis un soutien inconditionnel à Moscou dans cette guerre. En Espagne, le Premier ministre Pedro Sanchez est dans la tourmente éclaboussée par un scandale de corruption qui touche plusieurs de ses collaborateurs, membres comme lui du Parti socialiste espagnol. Il a réaffirmé hier qu'il n'entendait pas démissionner, et ce malgré la pression de l'opposition et de l'opinion publique. À Barcelone, Luis Marsans.
C'est la plus grave crise politique à laquelle il doit faire face depuis qu'il est arrivé au pouvoir il y a maintenant 7 ans. Mais Pedro Sanchez entend bien y faire face. Les révélations concernant l'un de ses bras droits sont pourtant accablantes. Dans un rapport de 400 pages, étayé par des écoutes téléphoniques, la Guardia Civil prouve que le numéro 3 du Parti Socialiste, qui vient de démissionner, a organisé un réseau de pots de vin en échange de l'attribution de contrats publics. Malgré l'ampleur du scandale et l'immense déception qui gagne son propre camp, Pedro Sanchez refuse de convoquer des élections. Hier, il a défié l'opposition de présenter une motion de censure. S'il a demandé pardon, Pedro Sanchez n'a pas donné d'explication convaincante et l'affaire provoque la consternation dans l'opinion publique. Et même les médias classés à gauche sont très sévères contre Pedro Sanchez. En 2018, ce sont les affaires de corruption impliquant la droite espagnole qui lui avait permis d'arriver au pouvoir. Il avait fait de l'honnêteté en politique un cheval de bataille. Aujourd'hui, c'est tout son argumentaire qui s'effondre. La droite et l'extrême droite voient dans ce scandale une opportunité unique pour accéder au pouvoir. Barcelone, Luis Marsans pour Radio Vatican.
Dans l'actualité africaine, en Ouganda, les civils peuvent désormais être jugés par des tribunaux militaires. Le président Yoweri Museveni a promulgué hier une loi dans ce sens. La Cour suprême ougandaise l'avait pourtant jugée inconstitutionnelle. Les critiques craignent, eux, qu'elle soit utilisée à des fins électorales par le président ougandais au pouvoir depuis 1986. En Guinée, c'est la dissolution de la commission électorale par la junte qui suscite l'inquiétude. Elle est désormais remplacée par une direction générale des élections qui relève directement du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Cet organe est cependant rejeté par la classe politique qui craint une organisation partisane des futures élections. À Conakry, les précisions de notre correspondant Emmanuel Milimono.
Cet organe ne fait pas l'unanimité, notamment au sein de la classe politique. Le bloc libéral y voit une démarche unilatérale du pouvoir militaire, éloigné selon lui de tout cadre inclusif, et redoute une reprise en main du processus électoral par l'administration. Pour le président de l'UDRG, Edouard Zotomou, la création de la DGE n'est pas une garantie en soi de transparence, ni même de l'égalité du processus électoral. Il ajoute que les forces vives ont, depuis belle lurette, demandé la création d'un organe indépendant de gestion des élections. Les partis des anciens premiers ministres Lansana Kouyaté et Sélou Dalène Diallo abondent dans le même sens. Ils dénoncent une militarisation du processus électoral et craignent que les prochaines élections ne soient ni transparentes ni crédibles. Et puis un autre observateur, l'avocat et ancien bâtonnier Maître Mohamed Traoré, membre démissionnaire du Conseil national de la transition, estime que de la base au sommet, une administration publique totalement politisée et partisane, des administrateurs qui organisent ou participent aux manifestations de soutien à la candidature du président de la transition, pose déjà un véritable problème en termes de sincérité et de crédibilité des prochaines élections. Emmanuel Milimono, Conakry, pour Radio Vatican.
Au Togo, les chaînes françaises France 24 et Radio France Internationale sont interdites d'antenne pour 3 mois. Elles sont accusées d'avoir relayé des propos inexacts et tendancieux après des manifestations qui ont secoué le Togo au début du mois. Une suspension qui vient réduire un peu plus l'espace de diffusion en Afrique de l'Ouest de ces deux chaînes. Elles sont suspendues depuis plusieurs années dans les pays du Sahel dirigés par des juntes militaires. L'armée israélienne a appelé hier après-midi les habitants d'un quartier de Téhéran à évacuer, expliquant dans un communiqué en langue persane s'apprêter à frapper des infrastructures militaires appartenant au régime iranien. Cette nuit, des dizaines d'infrastructures de stockage et de lancement de missiles sol-sol ont été touchées, a expliqué Tsahal, tout comme des sites de stockage de drones. En plus des installations militaires et nucléaires de la République islamique, l'État hébreu, on l'a dit, s'attaque à des sites économiques, des postes de police ou encore la télévision d'État. Contrairement aux Israéliens, les civils iraniens, eux, n'ont pas de bunker où se protéger des tirs de missiles. Plus largement, quelles sont les stratégies de résistance dont dispose Téhéran, plus que jamais isolé dans la région? Sans aviation de combat et avec un système de défense aérien très affaibli, les capacités militaires iraniennes sont extrêmement limitées. C'est ce que nous explique ce matin notre invité Bernard Ourcade, géographe spécialiste de l'Iran, chercheur émérite au CNRS.
L'Iran a perdu tous ses alliés, tous ses proxys. C'était le Hezbollah au Liban, c'était Bachar el-Assad en Syrie, c'était les milices chiites en Irak, c'était les Houthis, autant de forces qui maintenant ont disparu ou bien ne sont plus contrôlées par l'Iran comme avant. Autrement dit, l'Iran a été vaincu, les gardiens de la révolution ont été affaiblis et l'Iran n'a plus de capacité militaire puisque l'Iran n'a pas d'aviation de combat et n'a pas d'armes en dehors de ses missiles qui ont été très bien développés mais qui ne sont qu'une riposte limitée face à l'Israël qui a été effectivement une expérience et un armement sans équivalent dans le Moyen-Orient.
De quels moyens dispose toutefois l'Iran pour protéger ses installations nucléaires aujourd'hui?
L'Iran ne possède pas de moyens de défense. Les Israéliens avaient en octobre dernier attaqué une première fois l'Iran et détruit l'essentiel des systèmes de défense aériens qui existaient. Et dans tous les cas, l'Iran n'a pas des moyens de défense militaire, puisque l'Iran est sous sanction depuis très longtemps, et n'a pas les moyens financiers non plus pour pouvoir se défendre. Autrement dit, les sites nucléaires sont facilement atteignables. Mais ce qui est plus important surtout, c'est que les autres sites industriels, les raffineries de pétrole, les résidences, les maisons, les dépôts de munitions, les gares, les bâtiments ne sont pas protégés et subissent l'attaque israélienne qui dépasse largement la question du nucléaire. C'est une attaque massive sur tous les secteurs. Il faut créer un certain chaos en Iran, espérant que ce chaos changera la politique iranienne.
Et alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'ampleur des sites qui ont été visés? Et vous disiez justement, c'est des sites qui vont au-delà des installations nucléaires.
Il y a eu plus de morts parmi les savants et les chercheurs du nucléaire que parmi les généraux gardiens de la révolution. On sait en particulier que le centre de raffinage de gaz de Kangan, c'est la plus grande gisement de gaz du monde qui est partagé avec le Qatar et a été touché. Par ailleurs, les sites pétroliers iraniens sont également touchés, les réserves de pétrole à Téhéran. Et on a vu également les infrastructures routières, des gares, l'aéroport qui ont été touchés. Les bombardements ont touché même des villes dans l'est de l'Iran, très très loin à l'est, près d'Afghanistan, ont été symboliquement touchés pour montrer que Israël peut atteindre n'importe quelle partie du pays et donc faire que tout le territoire iranien se sent menacé par l'attaque israélienne. C'est ça psychologiquement qui est très important.
Dans quelle mesure est-ce que les Israéliens disposent de moyens nécessaires pour détruire à eux seuls le programme nucléaire iranien?
Les Israéliens ne possèdent pas les moyens techniques pour détruire physiquement les installations qui sont souterraines. Cette question n'est pas là. Mais dans la mesure où vous avez détruit tous les systèmes électriques, les installations de surface, tout ce qui est souterrain ne fonctionne plus. Donc il faut tout remettre en place. Et on peut dire qu'aujourd'hui, le nucléaire iranien n'est plus en état de fonctionner. Il faudra bien 6 mois, 1 an pour remettre tout en route. Donc la question, c'est que les Iraniens vont se dire aujourd'hui, puisqu'on nous attaque alors que nous respectons les lois internationales, puisqu'ils sont inspectés par l'Agence internationale d'énergie atomique, on nous attaque alors qu'on est menaçant peut-être, mais pas passé à l'acte, retirons-nous du TNP, traité de non-prolifération, et faisons une bombe atomique, c'est le seul moyen d'être protégé. Si nous avions une bombe atomique, Israël n'aurait pas attaqué.
D'un point de vue militaire, comment est-ce que vous analysez la stratégie de réponse choisie par Téhéran?
L'Iran n'a pas d'autre arme que les missiles, d'excellents missiles qui sont capables de faire d'atteindre Israël, ils l'ont montré, et ont touché Israël à plusieurs reprises parce que les moyens de contrôle israéliens du dôme de fer ne sont pas suffisants. Et donc l'Iran peut toucher des cibles israéliennes, mais bon, ils ont, dit-on, 500, 800 ou 1000 ou 2000 missiles, ça ne peut faire que des dégâts ponctuels en Israël. Donc l'Iran n'a pas de moyens de répliquer. Il faudrait autrement que l'Iran touche les bases militaires américaines, par exemple, dans la région. Mais l'Iran s'en garde bien de cela, sachant que si les États-Unis rentraient dans la guerre, ce serait fatal pour l'Iran. Et donc l'Iran est actuellement fort démuni et attend la communauté internationale. Mais la communauté internationale qui ne répond pas.
Interrogé par Alexandra Siergan, le spécialiste de l'Iran, Bernard Ourcade était l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h heure de Rome pour un nouveau journal. Je vous souhaite d'ici là une excellente journée.